Europe Soir Weekend. Lionel Gougelot. Les grandes voix.
Il est 18h33 et voici notre rendez-vous comme chaque week-end jusqu'à 19h. L'actualité en débat avec les grandes voix du week-end. Ce soir, ils nous accompagnent avec leurs réactions, leurs analyses et leurs coups de cœur. La journaliste politique Laetitia Krupal, spécialiste en communication politique Philippe Moreau-Chevalet et Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'IFOP. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, le premier sujet que je propose à la discussion, c'est ce chiffre. Plus de 50% des Français expriment clairement leur défiance vis-à-vis d'un vaccin qui, pourtant, comme le dit Olivier Véran, va nous permettre de sortir du cauchemar de cette épidémie. Comment expliquer une telle réticence ? Sujet de réflexion pour vous, les grandes voix, dans la première partie de notre discussion. Et puis, plus léger, mais peut-être pas tant que ça. On observe tous les ans avec une certaine curiosité ce fameux palmarès des personnalités préférées des Français. Indétrônable Jean-Jacques Goldman, Sophie Marceau, mais aussi Omar Sy, Alexandra Lamy, Jean-Pierre Pernaut ou Mimi Mati. Qu'est-ce que cela dit de l'état d'esprit de nos concitoyens des Français ? On en parlera avec vous les grandes voix. Mais avant cela, vos coups de cœur et on va commencer avec vous, Laetitia Krupa. Alors attendez, vous m'avez parlé d'une enquête...
Les grandes voix.
Vous m'avez parlé, Laetitia, d'une enquête Citizen Toward Covid, qu'est-ce à côte, Laetitia ?
Oui, c'est un coup de cœur, Lionel, plutôt un signal d'alarme, je vais vous dire, parce que alors, c'est une grande enquête internationale. Vous l'avez dit en anglais, je préfère le français.
Bravo, hein, voilà. Vous avez raison.
Je ne prends pas de risque. Les citoyens face au Covid-19, ça a été mené entre autres en France, en Allemagne, au Canada, au Maroc. Et en France, c'est le CEVIPOF, le Centre de Recherche de Sciences Po, ou la Fondapol, qui en publie les derniers résultats. Aujourd'hui, l'enquête a commencé en mars. Mmh. Et alors, deux résultats sont assez édifiants. Je vais vous les livrer tout de suite. Première question, quand vous pensez à la situation liée au coronavirus en France, vous éprouvez de la colère, 46%, de la peur, 30%, de l'espoir, 29%. Bon. Donc, 7 Français sur 10 sont dans la colère. Contre qui, contre quoi, ce n'est pas précisé. Mmh. Ou dans la peur, vous connaissez l'adage, c'est pas la meilleure conseillère, c'est même la pire. Deuxième item. À votre avis, quelle est la probabilité que les scientifiques cachent des informations aux Français sur l'épidémie du coronavirus ? 38% probable, 34% ni probable, ni improbable, 28% pas probable. On note une défiance qui est en hausse. C'est relativement nouveau. Jusqu'à maintenant, la confiance dans les médecins et les scientifiques était très élevé dans les enquêtes d'opinion.
On va en reparler
là,
tout à l'heure. Ouais.
Voilà, on note un frémissement, mais en tout cas, c'est en hausse. Et vous notez aussi qu'on a tendance maintenant à les classer dans cette catégorie sociale qu'on nomme élite.
Aïe, aïe.
Voilà. Donc, ils seraient, commenceraient à être rejetés par l'opinion publique. Alors, j'aurais besoin de notre demi-heure de débat, je vous le dis tout de suite.
Et vous ne les avez pas.
Pour vous faire une étude comparative de tous les pays testés.
Ouais.
Mais quand même, ces deux indicateurs que nous avons aujourd'hui, la colère, la peur et la défiance grandissante, à mon avis, sont des bons signaux. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, des signaux forts pour notre vie politique jusqu'en 2022. Et nous n'avons pas encore les résultats de l'opinion confrontée à la crise économique. Je vous laisse imaginer.
Oui, on va avoir l'occasion de rebondir un petit peu sur ces notions, hein, Laetitia. Philippe Moreau-Chevrolet, quel est votre coup de cœur ce soir ?
Ah, mon coup de cœur, c'est pour cette journée d'aujourd'hui, cette journée historique.
Tout simplement, ouais.
Qui voit à la fois la vaccination de Morissette, alors le nom, retenez bien ce nom, retenez aussi ce visage si vous avez vu sa photo, parce qu'il va être dans les livres d'histoire, véritablement, c'est une journée où on franchit un cap, on commence à sortir de la crise, et c'est véritablement emblématique. Il y a aussi une très bonne nouvelle sur le front des vaccins, avec le vaccin d'AstraZeneca, qui est un vaccin beaucoup moins cher, très facile à transporter, qui a été annoncé comme fini, avec des très bons résultats, qui est en train d'être évalué par les autorités britanniques. C'est le vaccin Oxford-AstraZeneca. L'Europe en a commandé beaucoup en grosse quantité. Donc c'est une vraie percée aujourd'hui, un vrai signe d'espoir. C'est quand même uniquement par le vaccin qu'on peut s'en sortir vraiment. Donc il faut voir cette journée un peu comme une pierre blanche. Et moi, je trouve que cette journée est vraiment fantastique, elle est importante. Il faut qu'on la retienne et il faut qu'on reprenne espoir aussi, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on construit un vaccin aussi vite. C'est la première fois qu'il est testé aussi vite. Et deuxième signe d'espoir pour moi, qui va un peu contre ce que tu disais, Laetitia, c'est que aux États-Unis, on constate qu'avec la campagne de vaccination, avec la mise en scène de Joe Biden, la mise en scène à l'américaine du chef du Pentagone qui se fait vacciner, de Joe Biden, le président qui se fait vacciner, Kamala Harris, la vice-présidente, toute cette mise en scène, des médecins aussi, a permis avec un gros battage de faire changer les choses, et on constate que les Américains reprennent confiance dans la vaccination, se font vacciner. Et moi, je constate ce soir qu'il y a une demande qu'on entend des soignants et qui disent nous aussi maintenant, si le vaccin est là, on veut l'avoir pour pouvoir être protégé.
Alors,
je pense qu'il faut, on est dans une guerre, comme disait Emmanuel Macron, contre nous-mêmes surtout, j'ajouterais, et on est en train de la gagner peut-être, donc réjouissons-nous un peu.
Ne grillez pas tous vos arguments, Philippe, hein, parce qu'on va reparler de ces questions de réticence, d'anti-vax, etc., dans la première partie de notre discussion. Votre coup de cœur, Frédéric Dabi, mon petit doigt me dit que c'est quelqu'un dont on va beaucoup parler ce soir.
Oui, votre petit doigt a raison, mon cher Lionel. Coup de cœur pour un chanteur.
Jean-Jacques, on peut l'appeler par son prénom maintenant, hein. Il est tellement
proche de nous. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Jean-Jacques Goldman, qui émerge une fois de plus comme personnalité préférée des Français dans le traditionnel top 50 IFOP JDD publié aujourd'hui. Hein. C'est la 10e fois que Jean-Jacques Goldman arrive en tête des personnalités les plus aimées des Français. C'est un vieux sondage, hein. Le top 50, il a été créé en 88, et il se rapproche des deux monstres les plus souvent consacrés par ce sondage, à savoir le commandant Cousteau et l'abbé Pierre, qui ont été premiers 15 et 18 fois. Ouais. Alors, Jean-Jacques Goldman, préféré des Français alors qu'il n'a absolument aucune actualité. C'est presque un retraité. Cette année, le seul élément qu'on peut citer, ce n'est pas rien, hein, dans le contexte Covid, c'est la chanson qu'il a écrite pour rendre hommage aux soignants.
On l'écoutera tout à l'heure.
Oui, mais ce paradoxe apparent est à relier à l'alchimie particulière du top 50. Il n'y a pas besoin de saturer l'espace médiatique. Il n'y a pas besoin d'une présence médiatique très forte pour bien figurer. Au contraire, Jean-Jacques Goldman porte des valeurs que les Français privilégient et qui sont les ingrédients de la réussite pour le top 50. L'authenticité, la modestie, la proximité qui permet aux gens de s'identifier à lui, surtout, et on va à mon avis en parler aussi tout à l'heure, c'est sa longévité qui est plébiscitée. Beaucoup de Français ont dans ce cadre construit un lien personnel avec Goldman à travers ses chansons. Hein. Ça ne date pas d'hier, depuis le début des années 80, il suffira d'un signe, son premier tube c'est 1981, Jean-Jacques Goldman fait partie de leur vie, il incarne parfois une époque, un souvenir qui relève d'un âge d'or. On retrouve, Lionel, le même phénomène s'agissant de Sophie Marceau, qui est première du classement féminin. Depuis l'année dernière, le classement a été scindé en deux hommes-femmes, et Sophie Marceau, que l'opinion publique a vu grandir depuis La Boum, qui ont construit également une relation presque familiale avec elle. La Boum, c'était en 1980, il y a 40 ans.
Laetitia, un petit mot ?
Oui, en fait, Frédéric, je vous écoute et je me dis, tiens, il y a peut-être deux critères aussi pour gagner ce top 50, c'est la quasi-disparition, l'absence. Et remarquez que pour les politiques, ça marche. Parce que depuis qu'Édouard Philippe est parti au Havre et qu'on ne voit plus trop, hein, on l'entend, mais on ne le voit plus trop, alors il est au top 50 du classement
politique.
Top 50
politique, pas alors, au top 50 IFOP JDD, mais on va y venir.
Oui, on va en reparler, rassurez-vous, on va en reparler.
Non, parce qu'il y a une disparition des politiques hein, dans le
oui,
top 50.
Oui, on va en reparler, Philippe. On va en reparler. Vous avez formidablement bien posé les bases de notre discussion et je vous en remercie. Mais on va quand même revenir sur cette histoire de vaccin. François Rebsamen, tout à l'heure sur Europe 1, disait qu'on était en train de vivre un jour historique, le vaccin contre le Covid. C'est une réalité maintenant. Morissette, 78 ans, on l'a vu sur toutes les télés, on l'a entendu sur toutes les radios. Elle a reçu donc cette première injection dans cette campagne de vaccination, mais elle n'est pas les seules. Quelques minutes après, c'est le docteur Jacques Monsuez qui a reçu lui aussi sa piqûre.
Je crois que c'est quand même pas mal qu'on protège les Français, qu'on protège les plus vulnérables. Et donc, comme on ne peut pas séparer les malades des soignants, il fallait bien un soignant, on a choisi le plus jeune. Et donc, voilà, je suis majeur et vacciné.
Voilà, majeur et vacciné. Première question pour vous, les grandes voix. Votre sentiment sur ce moment scientifico-médiatique aujourd'hui ?
Je trouve qu'il est plus scientifique que médiatique, personnellement, parce que c'est Olivier Véran qui nous donne l'explication aujourd'hui dans le journal du dimanche. Mmh. Il dit que lui, il n'a pas voulu être sur la photo, c'est une expression évidemment, mais il n'a pas voulu apparaître, il n'a pas voulu être filmé pour cette séquence vaccin, qui est pourtant, à mon avis, fondamentale dans la lutte contre le coronavirus, parce que ce n'est pas la place d'un politique, mais la place d'un soignant. Et il dit aussi qu'il ne faut pas faire de la vaccination la victoire du gouvernement. Franchement, Lionel, ça se discute.
Ouais.
Ça se discute parce que je trouve que l'exécutif a fait une com à minima, un tweet d'Emmanuel Macron, ok, soit. Je vous rappelle quand même qu'il y a 10 jours, il était malade et que tout le pays était à l'arrêt en train de regarder comment Emmanuel Macron allait traverser cette maladie. Jean Castex, alors depuis sa couve de Paris Match, je ne sais pas, il est enfermé à Matignon avec sa femme. Et le monsieur vaccin, Alain Fischer, c'est quand même un monsieur vaccin. Alors il nous avait bien dit Non, non, mais moi, je veux pas être justement le monsieur comme de vaccin. Ouais. Je veux pas être intitulé comme ça, ouais, défini comme ça. Mais enfin, il est complètement aux abonnés absents. Je trouve ça très spécial.
Philippe Moreau-Chevrolet, votre sentiment sur cette... alors, je disais tout à l'heure moment scientifico-médiatique, mais médiatique quand même.
C'est les sous-doués font de la communication quand même, le gouvernement, dans cette affaire, parce qu'on a besoin de renforcer la croyance des gens, la confiance des gens, on a besoin de leur montrer que le vaccin commence à arriver, ça donne de l'espoir. Et les trois quarts de l'interview ce matin de Olivier Véran dans le JDD étaient consacrés au reconfinement. Je ne sais pas ce qu'on cherche, peut-être qu'on cherche à désespérer la population, peut-être qu'on cherche à donner le sentiment qu'il n'y aura pas assez de vaccins, peut-être qu'on a envie d'éviter que les gens soient imprudents au nouvel an, donc on n'essaie pas trop donner de mauvaises nouvelles pour pas créer surtout le sentiment d'impunité. Je ne sais pas ce qu'on essaye de faire, mais ce n'est pas la bonne voie. La plupart de nos voisins, ils ont choisi des vaccinations bien visibles, avec des campagnes et des slogans. En Italie, par exemple, les premières vaccinations ont eu lieu devant un panneau avec le slogan « L'Italie renaît au printemps ». Mmh. Il y a toute une campagne qui est faite, c'était formidablement mise en scène. Là, on a l'impression que les politiques considèrent que le vaccin, c'est un truc un peu honteux. Alors, il ne faut surtout pas être à l'image. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est véritablement, je rejoins le sentiment de Laetitia, c'est incompréhensible, c'est stupide. Visiblement, il y a eu des études qui ont été faites qui les inquiètent en termes de réception du public. Ils ont peur d'être accusés par les anti-vaccins, d'être vendus à Big
c'est
Pharma.
Ça, ouais. Bon, faire la promotion des labos.
Ça doit représenter 10%, 15% des gens. Mmh. Donc on ne va pas faire toute la communication du gouvernement en fonction d'une ultra-minorité qui est complotiste et qui de toute façon n'écoute plus rien. Et puis ils ont peur aussi probablement qu'on pense que c'est un privilège qu'ils se donnent. Ça n'a aucun sens. Ouais. On prend une dose de vaccin pour vacciner une personnalité politique. On a beaucoup de vieux qui gouvernent, on en prend un qui a l'âge, et puis tout va bien. Ouais. Il fallait bien qu'Olivier Véran soit là sur l'image. C'est extrêmement bizarre. Ouais. C'était extrêmement bizarre.
Frédéric Dabi, cette journée, est-ce qu'elle va contribuer à, comment dirais-je, réduire, à estomper les réticences de presque 60% des Français qui expriment d'une manière ou d'une autre une réticence face au vaccin ?
Oui, alors justement, j'ai envie de déconstruire le sondage dans le JDD qui est très très intéressant, qui est absolument dévastateur quand on voit que la France, en termes d'intention de se faire vacciner, dépasse que la Croatie et la Serbie. Mais quand on regarde, et c'est le professionnel qui vous dit, un sondage, il faut toujours voir la question qui est posée. C'est vous ferez-vous vacciner ? Et je pense que ce sondage, il est moins le reflet d'une défiance qu'un certain attentisme. Dans des données de l'IFOP, on a une majorité de Français, 58%, beaucoup plus chez les personnes âgées, qui ont l'intention de se faire vacciner, mais une partie très importante d'entre eux déclarent vouloir attendre un certain temps avant de se faire vacciner. Et c'est là que je rejoins complètement ce que Laetitia et Philippe viennent de dire, avec la communication à minima des pouvoirs publics. Elle me disait ce matin sur Europe 1, Hervé Gattegno, un gouvernement qui semble raser les murs, le gouvernement ne mobilise pas ses ambassadeurs de la vaccination qui seront les vaccinés eux-mêmes. Et on sait que la confiance peut augmenter extrêmement vite à mesure que ces ambassadeurs, draineront la bonne parole. Il y a bien sûr une perméabilité en France plus forte aux théories complotistes. J'avais retrouvé un sondage IFOP pour Conspiracy Watch au mois de mars qui montrait qu'un tiers des Français craignaient une collusion entre les labos pharmaceutiques et l'État pour dissimuler la nocivité des vaccins. Mais au-delà de ça, très clairement, je suis frappé par le décalage entre la faible communication du gouvernement, alors que l'attentisme des Français, c'est ça qui est le plus dangereux, plus qu'une défiance qui existe, mais qui n'est pas majoritaire.
Et les choses vont sans doute évoluer de toute façon de ce point de vue-là, hein, du point de vue de la compréhension globale, on va dire, de l'opinion française. On marque une pause, les grandes voix. Frédéric Dabi va être content. On va reparler de son idole, Jean-Jacques Goldman, indétrônable personnalité préférée des Français. Mais il n'y a pas que lui. Ce palmarès de nos confrères du JDD dit beaucoup de choses sur l'état d'esprit des Français. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Lionel Gougelot. Les grandes voix.
Caissières, éboueurs, un cadre, un ouvrier, un routier, un facteur, paysan, PDG. Tout ça aurait très bien pu se mettre en retrait. Mais ils pensent têtus qu'ils ont un rôle à jouer. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur. Oublions la fatigue, la peur, les heures. Et loin des bons discours, des grandes théories. À leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Sauve nos vies.
Ils sauvent nos vies, l'hommage au printemps dernier de Jean-Jacques Goldman au personnel soignant au plus fort de l'épidémie. Goldman et Sophie Marceau, personnalité préférée des Français, donc dans le traditionnel palmarès publié par nos amis du Journal du Dimanche. Alors, ils devancent Omar Sy, Alexandra Lamy, Jean-Pierre Pernaut et Mimi Mathy. Alors, Frédéric, c'est votre institut, hein, l'IFOP, qui a réalisé ce sondage. Qu'est-ce qu'il dit, ce sondage, de la société française et de l'état d'esprit de nos compatriotes?
Oui, je partage votre point de vue, Lionel. C'est un sondage reflet des grandes tendances de la société française. L'importance accordée à l'authenticité, à la proximité, à la longévité. Mm-hmm. Je parlais de Goldman, mais il y a aussi Pernaut. Hein. Pernaut, c'est aussi autre chose. C'est un momentum. Pernaut, avec quelqu'un qui célèbre la France des territoires, l'amour du local, toute une série de tendances que la Covid a, si je puis dire, exacerbé. Ça montre aussi, c'était notre débat précédent, une défiance de plus en plus forte vis-à-vis des experts, vis-à-vis des sachants. À une époque, le premier top 50, hein, c'était en février 88, aux 20 premières places, il y avait 6 ou 7 politiques. François Mitterrand était 3e de mémoire, Jacques Chirac était 9e, il y avait même Jean-Marie Le Pen qui était dans les 15 premières places. Là, ça fait maintenant des années, ça s'est encore plus accentué. Les politiques disparaissent car clairement, ils sont abîmés par cette année terrible et plus largement, ils n'apparaissent pas en adéquation avec les qualités attendues d'une personnalité pour les Français. Je parlais donc d'authenticité, de proximité, de discours, de vérité.
Ouais. Laetitia Krupa, que les politiques n'apparaissent pas, ça vous étonne pas ?
Ah bah non. Vous savez que c'est quand même les plus détestés de l'opinion publique. Je crois qu'on est juste derrière les journalistes. Et donc, du coup, je mets aussi, je crois qu'il y a Claire Chazal, hein, qui vraiment tire son épingle du jeu, parce que quand on parle de politique, moi j'élargirais un peu plus en disant il n'y a pas d'élite, il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas, j'en sais rien moi, d'écrivain, il n'y a pas de personnalité comme ça qui peut être à la fois très populaire, mais faisant partie de, encore une fois, ce groupement que l'on appelle élite, il n'y en a pas. Alors, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que les personnalités clivantes comme Éric Zemmour ou Didier Raoult, le professeur Raoult, ne sont pas dans le top 50. Oui. Et donc, finalement, c'est vrai qu'on aime les voir peut-être être dans le combat de coq, comme ça, ou dans l'invective, dans la provocation, dans la polarisation du débat. Mais finalement, on ne les élit pas quand il s'agit en tout cas, d'élire les personnalités préférées des Français. Ils ne font pas partie.
Philippe Moreau-Chevrolet.
Moi, je pense qu'il faut nuancer au sens où il y a une liste qui est soumise quand même aux Français pour leur demander d'évaluer les personnalités. Donc, on guide un petit peu leur choix.
Ah,
cela
non,
dit,
Philippe,
moi, j'y vois plus une
expression
de nostalgie.
Philippe, non, ce n'est plus le cas depuis très très longtemps. Il y a eu une très large consultation de plus de 120 en fait, personnalités et un choix qui a été fait par les lecteurs du JDD. Ce n'est pas une liste fermée, imposée. Hein. C'est une liste qui a été très fortement ouverte.
Rectification
où on a proposé toute une série de personnalités.
Rectification immédiate de Frédéric Lévy. Merci beaucoup Frédéric. Donc c'est le choix passé par le JDD, donc un choix démocratique et pas un choix imposé, donc c'est très bien. Moi, je pense juste que c'est l'expression d'une nostalgie, en fait. Quand on regarde aussi ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, on avait une figure qui dominait, c'est extraordinairement étonnant, c'est la figure de Coluche. C'est étonnant parce que ça fait quand même 40 ans que Coluche est mort. Hein. Donc on est dans des phénomènes de persistance dans la culture française qui sont de la nostalgie, de l'ordre de « à cette époque-là, on pouvait dire les choses, on pouvait s'en amuser. À cette époque-là, on pouvait avoir une chanson qui était fédératrice, Goldman s'est fait
Oui, mais enfin,
à cette époque-là, on pouvait avoir quelqu'un comme Sophie Marceau dans la boum.
Ouais. Mais enfin, Omar Sy et Soprano, c'est pas la nostalgie, Philippe.
Non, Omar Sy et Soprano, c'est plutôt l'espoir, c'est l'avenir, hein, donc ça, c'est plutôt bien. Mais ça reste des personnalités très, très fédératrices. Si vous regardez Omar Sy, c'est quelqu'un qui a gagné les cœurs des Français par le film, je crois que c'était, ça s'appelait Intouchable,
il me semble.
C'est ça.
Intouchable.
Voilà, et il a eu une carrière internationale, c'est une superstar, c'est quelqu'un d'extraordinairement fédérateur et qui a une image plutôt gentille et sympathique, qui n'est jamais, jamais clivant, comme le disait Laetitia. Donc on n'est pas face à des gens qui vont, contrairement aux politiques, chercher agressivement leur place, ils la trouvent en quelque sorte par le haut, en rassemblant, en étant au cœur de la culture populaire, sans forcément être beaucoup dans les médias. Et c'est une bonne leçon pour les scientifiques. Les scientifiques ont commis une erreur, c'est d'aller sur masse sur les plateaux des chaînes info. Ils sont devenus quelque part aux yeux des gens, du coup, terriblement banals et contradictoires et partie de la cacophonie, partie des élites, partie de quelque chose qu'on n'a plus vraiment envie d'écouter, même si on le regarde. Et du coup, le fait d'avoir ce classement avec des gens qui sont finalement, Omar Sy prend très peu parti dans le débat public, même si ça lui arrive, bien sûr.
Non, il a quand même.
C'est pas des gens qui vont agresser, quoi.
Ouais, mais enfin, justement, on observe. Vous parlez de Omar Sy, mais je pense à Sophie Marceau aussi. Ce sont quand même des personnalités qui sont intervenues dans le débat public. Je pense à Sophie Marceau qui a apporté son soutien, vous savez, au documentaire conspirationniste Hold Up. Et Omar Sy, il intervient souvent sur la question des violences policières. Toutes ces prises de position, ces petits dérapages, hein, ils n'en ont pas pâti.
Moi, je pose une hypothèse, c'est qu'en fait, les Français ne le savent pas forcément. Et ouais, qu'ils retiennent ces personnalités pour les films où, là, essentiellement,
pour
Marceau.
Ce qu'ils font, quoi.
Oui, et Sophie Marceau, c'est les films. Alors, et je ne pense qu'ils ne sont pas dans le détail de Sophie Marceau soutenant Hold Up. C'est de ça dont vous parlez, ouais, Lionel.
Pas soutenant.
Franchement, honnêtement, déjà, Hold Up, je ne sais pas, on descend dans la rue, je pense qu'il y en a 1 sur 50 qui voit de quoi on parle. Nous aussi, notre petit microcosme journalistique, on a une énorme loupe à la place des yeux. Moi, je suis myope, donc ça me sert. Mais vraiment, il faudrait un tout petit peu élargir notre champ de vision, il me semble.
Me v'la renvoyer dans mes 22 avec ma réflexion. Merci, Laetitia.
Il y a quelque chose qui est Mathieu Kassovitz. Oui. Mathieu Kassovitz, c'est un bon exemple de ce que vous dites. C'est-à-dire, Mathieu Kassovitz, lui, il devient presque plus connu aujourd'hui pour ses interventions politiques que pour ce qu'il a fait artistiquement, à part le Bureau des légendes, évidemment. Donc, ça constitue une partie de son identité. Mais Omar Sy n'est pas un politique au sens premier du terme. Sophie Marceau non plus. Elle est connue plus pour ses couvertures de magazine People aujourd'hui avec Cyril Lignac, par exemple.
C'est fini.
Oui. Je suis tout à fait d'accord avec
un mot.
Ce qui vient d'être dit. Alors, c'est vrai que l'engagement politique est, si je puis dire, souvent rédhibitoire. Laetitia a tout à fait raison de dire que oui, Hold Up n'a pas eu une si grande exposition que ça. Omar Sy s'est quand même beaucoup engagé ces derniers mois, mais je pense que les Français récompensent aussi un engagement certain. Ce qui m'a frappé dans ce top 50, c'est l'arrivée directement en 7e place de Philippe Etchebest. C'est pas seulement un effet télé, puisque ça fait longtemps qu'il fait de la télé sur M6, je crois, mais c'est aussi son engagement pour la défense des restaurateurs. Il est devenu porte-voix, porte-parole. On a eu ce phénomène de cuisiniers citoyens, si je puis dire, qui ont plu aux Français. Et ce classement, il y a bien sûr des gens qui sont là depuis très longtemps, mais il y a aussi des promesses, des jeunes pousses qui étaient encore pas connues. On dit que Vianney pourrait être le futur Jean-Jacques Goldman, la Louane à un niveau élevé. Il y a des grandes tendances dans ce top 50, on vient de les dire, mais il y a aussi des choses qui pourraient, à mon avis, surprendre dans les années à venir.
Frédéric, est-ce qu'on aime telle ou telle personnalité selon qu'on vote à droite ou à gauche ?
Alors, oui. Emmanuel Macron est dans le top 5 auprès des sympathisants d'En Marche. Marine Le Pen est très haute au Rassemblement National.
Omar Sy, par exemple.
Oui, Omar Sy est par exemple premier à gauche, mais il est dans le classement, dans le top 10 des sympathisants RN. C'est un classement qui est relativement dépolitisé. Jean-Jacques Goldman, ça donne le tournis. Il est deuxième à gauche, premier chez En Marche, premier au Rassemblement National, deuxième
à droite.
Il
faut qu'il se
présente. C'est génial, le type, il a quand même disparu quand même.
Bah vous savez, on est plus le sur un clivage générationnel. Goldman, il est par exemple faible chez les jeunes que sur un clivage politique.
Ouais. Le vote selon qu'on est un homme ou une femme, ça joue aussi.
Pourquoi classer les hommes et les femmes ?
Parce
alors moi je trouve que c'est hyper old school. Hein.
Ouais.
Frédéric, c'est hyper old school. Franchement, hommes et femmes. Pourquoi
très bien.
On mélange
c'est
pas
intéressant.
Tout.
Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de temps. C'est un débat qu'on a avec le JDD il y a maintenant un an, où on était un peu désolé, navré de voir trop peu de femmes parmi les 50 personnalités. Et on a induit de manière volontariste un classement séparé hommes-femmes. Alors ça peut paraître old school, mais c'est une manière d'avoir une parité, ce qui est moins old school en politique parfaite entre 25 hommes et 25 femmes.
Ouais. Je voulais revenir sur la question des hommes politiques. Il n'y en a vraiment aucun qui émerge, à part Édouard Philippe ?
Oui, et il n'y a vraiment qu'Édouard Philippe qui arrive. Hein, encore, il est après la 25e place. On a testé pourtant Jean-Luc Mélenchon qui arrive 39e, Jean Castex 40e, Anne Hidalgo également qui ne passe pas la rampe. Alors, je pense qu'il y a un effet Covid. Hein. Clairement, les politiques... En dehors peut-être d'Edouard Philippe, ont été particulièrement abîmés par cette année terrible où la défiance à leur égard, comme la défiance à l'égard des paroles scientifiques, a été maximale.
Merci les grandes voix, merci Frédéric Dabi, merci Laetitia Krupa, merci Philippe Moreau-Chevrolet. On vous retrouve évidemment le week-end prochain avec Wendy Bouchard qui retrouvera ce micro à cette même place.
Europe Soir Weekend, Lionel Gougelot.